Sans réserve, le balado.
En fait, ce qui serait merveilleux, éventuellement, ça serait d'avoir une fondation. Une fondation assez poussée sur les arts autochtones.
Tu sais, c'est bien beau quand on est ici des Premières Nations, on travaille toujours dans son milieu. Si on est toujours dans notre milieu, il faut s'ouvrir aussi à autre chose.
Depuis sa tendre enfance, Sylvie Paré se passionne pour tout ce qui touche l'art autochtone et ses traditions. De ses études en muséologie jusqu'à ses 20 années passées au Jardin des Premières Nations, elle se sent habitée par un devoir de mémoire. Voici Sylvie Paré.
Moi, quand je suis arrivée au Jardin, il n'y avait pas le Wapitani Mobile, il n'y avait pas l'ONF avec ses programmes pour les Autochtones.
C'était juste l'autre côté du pont de Wendake, parce que ma mère est Wendat, donc de la famille Bastien. On a des ancêtres Kermontouane, mais toute ma famille Wendat était au village des Hurons, à Wendake. Et puis, j'ai passé mon enfance à Wendake, mes amis étaient là. J'ai vraiment grandi. Finalement, le pont est assez symbolique aussi, parce que finalement, mon père était d'origine, il y a des antécédents allemands et puis européennes. J'ai vraiment fait un pont entre les cultures autochtones et, évidemment, mon bagage aussi personnel métisse. Donc, je me définis plus comme une Wendat métissée parce que, évidemment, j'ai des connexions avec toutes sortes de cultures. Les souvenirs de famille, moi, c'est parti beaucoup du grenier dans la maison chez moi parce que on vivait dans une maison avec ma grand-mère et puis il y avait un grenier dans lequel elle avait gardé plein d'objets de souvenirs. Des mocassins, une robe qu'elle avait portée lors de certaines cérémonies et des choses comme ça. Et aussi, évidemment, le contact avec la nature. On a grandi près d'une rivière, la chute Kabir-Kouba. Donc, c'était comme un univers poétique pour moi et d'expression artistique.
Depuis toute petite, on va dans des camps de chasse. On allait dans un camp de chasse, j'étais bébé. Et sans avoir connu le mode de vie traditionnel, il reste que le contact avec la nature, aller ramasser des bleuets avec ma mère, les plantes qui entouraient le lac. Évidemment, quand je me suis retrouvée au jardin, c'est sûr que là, ça me parlait, cette nature-là, quoi. J'étais assez solitaire quand j'étais petite parce que la maison était assez isolée. Donc, il y avait tout un imaginaire en moi qui a pu s'épanouir en fin de compte. Donc, c'est pas un hasard que je me suis retrouvée dans des domaines de création, de muséologie. Donc, j'avais une soif de connaissance, de connaître. Mais j'ai toujours aimé lire, donc ce qui m'aidait. Puis ma solitude faisait aussi que... c'est pas une solitude que je subissais. Hein. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, somme toute. Et je suis bien dans mes activités intellectuelles. J'ai fait mon bac en argile. Après ça, je suis allée en Italie 2 ans. J'avais le goût de m'ouvrir. Les artistes italiens m'avaient toujours fascinée. Et puis, je suis revenue au Québec, j'ai étudié en muséologie. Et après, j'ai fait une scolarité de doctorat en éducation et musée. Et à travers ça, évidemment, mon intérêt pour les Autochtones, je me suis retrouvée aussi parce que je faisais du travail d'été, soit au centre d'amitié, souvent pour des projets en lien avec les Autochtones. Et je me suis retrouvée conservatrice de l'art autochtone contemporain. Aujourd'hui, au musée qui s'appelle maintenant Musée canadien de l'histoire, mais à l'époque, ça s'appelait le Musée des civilisations. C'était Gerald McMaster qui était là. Moi, j'avais appliqué pour être stagiaire, puis je me suis retrouvée conservatrice pendant 2 ans là-bas. Les conservatrices en art autochtone, c'est récent, là. Il n'y en avait pas tant que ça il y a 20 ans, là. Donc, moi, je considère que j'ai fait partie des précurseurs dans plein de domaines qu'on a passé vraiment de façon invisible parce qu'il n'y avait pas les structures pour nous accueillir, nous mettre en valeur, parler de ce qu'on faisait, ce qui est merveilleux en ce moment.
Parce qu'on met tellement plus d'emphase. Moi, je suis heureuse de voir ça actuellement, ce qui se passe pour les jeunes artistes et tout ça. Mais nous, à l'époque, on était vraiment des minorités, tant des minorités. Ça a été très formateur. Moi, j'ai toujours aimé les liens qu'on appelle artisanat et art, même si nous, dans le milieu de l'art contemporain autochtone, on fait pas vraiment de distinction. J'ai travaillé vraiment avec les artisanes. Il y a Christine Sioui-Wawaloneas qui a fait des illustrations. Il y avait Lise Bibeau, entre autres, qui m'avait beaucoup aidée. Nolette aussi, Madame Nolette, avec qui on a travaillé. Dans les artistes actuels, je dirais qu'évidemment, il y a Nadia Mir, qui a une carrière internationale. Il y a Caroline Monet, des gens comme ça. Il y a Jacques Néwachiche aussi, avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé beaucoup avec des Inuits aussi. Quand j'ai quitté le musée, moi, j'ai commencé au Jardin des Premières Nations, et pour moi, c'était vraiment une priorité de mettre en valeur les artistes en art visuel. Et moi, au Jardin, j'ai pendant 13 ans, j'ai créé l'œuvre murale éphémère, donc j'invitais des artistes.
Différents artistes de différentes nations. Donc, il y en a plusieurs qui ont passé par là. Et il y a une œuvre qui a été acquise à un moment donné par le Musée des civilisations, mais à Québec. C'est l'œuvre de France Trépanier, qui est dans C'est notre histoire. Et cette œuvre-là a été acquise. Donc, ça a permis aussi, souvent, les artistes ont fait retourner leurs œuvres dans les réserves, ce qui a permis à la communauté de les voir.
Le fait d'avoir travaillé au Musée canadien de la civilisation, ça me faisait me rendre compte comment au Québec, il y avait du travail à faire et comment c'était pas juste d'avoir des artistes, mais de les aider aussi à créer des dossiers. Il y avait une bande sonore aussi qu'ils devaient créer en lien avec la tradition orale, la langue. On a travaillé dans la réconciliation. Donc, moi, je pense une vingtaine d'années, là, tu sais. Donc, là, maintenant, toutes ces choses-là sont beaucoup plus récentes. Mais c'était ça un de mes gros objectifs, c'était vraiment de mettre en valeur les différentes facettes des arts. Mais c'est sûr que j'avais un petit côté parti pris pour les arts visuels. Et le Jardin des Premières Nations, ça a été majeur. Je dirais les 10 premières années où j'ai été là, j'étais vraiment libre de faire ce que je voulais. C'était intéressant de travailler avec un comité quand même au début, dans la mesure où j'ai pu le soutenir, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'argent, donc c'est ça les comités. Donc, j'étais là que moi, je me voyais comme une représentante, pas une représentante au sens politique, mais dire je veux mettre en valeur en tout cas les différentes nations. Mais c'est vraiment dire on va mettre l'accent sur le Québec, les artistes des Premières Nations d'ici, pour les mettre en valeur, parce que je me rendais compte à quel point on n'avait pas de dossier au musée quand j'étais à Hull. Comment dans les collections non plus les artistes des Premières Nations du côté du Québec n'étaient pas là non plus. Mais là, on était vraiment au début, hein, c'était vraiment dans le cadre du 300e, la grande paix de 1701 que le jardin arrivait. Tout était à faire. De travailler avec le personnel du jardin par rapport aux Premières Nations, de faire connaître les cultures, des façons de faire, des savoir-être. C'était vraiment important d'essayer de créer des ponts. Puis c'était ça que le comité voulait créer des rapprochements, créer des ponts. On a travaillé tout de suite sur la réconciliation. Donc, ça a été les programmes éducatifs, ça a été les programmes de recherche, ça a été d'inviter des artistes, d'avoir une programmation culturelle variée. On a créé des partenariats avec la Boîte Rouge-Vif pour faire des expos. On se disait, ce jardin-là, c'est bien beau, mais il faut faire venir les gens des Premières Nations et des Inuits, parce que sinon, il sert à quoi ce jardin-là? Et ça a été vraiment d'établir une confiance. Et ça, je suis contente parce que ça a été vraiment de donner une crédibilité à ce jardin-là. Je pense qu'on l'a donné, tu sais. J'aurais aimé avoir plus de moyens. Tu sais, on n'avait pas, c'était pas des gros budgets. Puis la ville, c'est très très lourd, la bureaucratie de la ville. C'est pour ça qu'après 20 ans, là, c'était assez. Surtout un tempérament comme moi artistique, d'être toujours dans ces lourdeurs administratives. Mais par contre, ça a été riche parce que moi, je trouvais que c'était important de le faire. On a créé un jardin avec les Abénakis en France, à Lac-Nessy. Ça a été le premier jardin qui s'appelait Otea. C'était un jardin avec les bannières Abénakis qui ont travaillé sur ce projet-là. On a été un bon 2 ans, même 3 ans. C'était l'idée de faire un échange avec un artiste français là-bas et poser des artistes d'ici là-bas. Donc, il y a eu un aller-retour et ça faisait partie aussi d'une espèce de réconciliation par rapport à toute la colonisation française, etc. À la fois des Premières Nations, souvent, ce que j'ai entendu quand ils venaient au jardin, on se sent chez nous. Ça, je trouvais ça extraordinaire. Les Inuits, qui étaient surtout dans la zone des conifères, là, par rapport au wigwam qui est là, la cache à nourriture, etc. On se sent chez nous. Je trouvais ça extraordinaire. Ensuite, du grand public, ben, c'était très touchant parce que ils venaient beaucoup pour rencontrer les animateurs, parler de leur propre expérience par rapport aux Premières Nations ou leur expérience de travail. Ils étaient très curieux, ils voulaient apprendre, ils voulaient savoir. Et ça, je sais que les animateurs et animatrices ont créé des contacts assez profonds et d'une grande richesse humaine.
Sans réserve, le balado est une production de Production Mustang et Animikissi Digital Production. À la réalisation, Francis Thibault. À la gestion et au contenu, Marie-Josée Baudreau.